Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous. C'est le dernier cours de cette année universitaire. Je m'autoriserai peut-être de prendre 5 minutes ou 10 minutes de ce qu'on appelait du RAB pour arriver à conclure, parce qu'on a toujours le projet au début du cours de... Alors, c'est bien. C'est bien. Non, je disais que j'allais peut-être déborder de 5 minutes en cas de besoin, parce que c'est comme une valse, c'est court, et à la fin, ça s'accélère. Donc, je ne pourrais pas traiter tout ce que j'avais l'intention de traiter, mais il y a quelques points qui me paraissent importants pour conclure ce cycle de 2 années sur la justice sociale internationale. Nous avions la dernière fois commencé à envisager les différentes causes de ce qu'on peut appeler une sorte de désintégration ou d'effondrement du projet d'Europe sociale, et nous en étions restés à cette décision toute récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui pose en priorité le maintien de la possibilité pour les États de retirer un avantage concurrentiel des bas salaires qu'ils peuvent éventuellement pratiquer, et on ne saurait effectivement encourager plus clairement une course au moins-disant social qui est à rebours de ce que le traité appelait l'égalisation dans le progrès, qui figurait dans le traité de Rome. Et cet arrêt confirme pleinement un diagnostic qui a été posé par Pierre Rodière, ici même d'ailleurs dans un colloque sur la solidarité que nous avions organisé, lorsqu'il c'est Pierre Rodière est sans doute le meilleur spécialiste du droit social communautaire, et il dit: pour la Cour de justice de l'Union, la question est toujours de vérifier si une entrave aux libertés économiques peut être dérogatoirement consentie. On part de la liberté économique pour autoriser, si vraiment nécessaire, une exception ou une dérogation. Cette course au moins-disant social va de pair avec une course au moins-disant fiscal qui sape les bases financières de l'État social, et ne pouvait d'ailleurs trouver meilleur symbole que la nomination en 2014 à la tête de la Commission européenne de l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est l'un des paradis fiscaux les plus prospères du monde. Donc cette remise en cause des droits sociaux par la Cour de justice de l'Union est un des éléments de ce qui peut attiser ce qu'on peut appeler une sorte de guerre des juges, qui est une guerre feutrée, évidemment, ça ne se joue pas avec des armes. Et les positions prises par la Cour de justice ont suscité des critiques et des réactions venant de différentes instances nationales ou internationales. C'est le cas en particulier de l'Organisation internationale du travail et de sa commission d'experts, dont nous avions étudié le fonctionnement l'année dernière. Cette commission a été saisie de l'incidence de la jurisprudence Viking sur l'exercice du droit de grève au Royaume-Uni. Et la commission d'experts de l'OIT a dit qu'elle était d'avis que la menace omniprésente d'une action en dommage-intérêt comportant le risque d'acculer le syndicat à la faillite, éventualité aujourd'hui fort plausible compte tenu de la jurisprudence Viking et Laval, crée une situation dans laquelle l'exercice des droits établis par la Convention 87 sur la liberté syndicale devient impossible. Et la Commission dit qu'elle trouve que cette jurisprudence pourrait se révéler dévastatrice pour le respect des normes sociales internationales du travail. On ne saurait là aussi plus clairement manifester une divergence avec les positions prises donc par la Cour de justice de l'Union. Donc, nous avions identifié différents facteurs de ce délabrement de l'Europe sociale. Le premier que je viens d'évoquer était celui de la nouvelle Europe, c'est-à-dire des conséquences de l'élargissement qui ont modifié les équilibres internes de la Cour de justice et l'ont conduite sur cette pente que nous venons d'étudier. Un deuxième facteur de ce délabrement de l'Europe sociale, c'est la malfaçon de l'euro. Les négociateurs du traité de Maastricht avaient cru possible d'étendre à toute la zone euro le modèle ordo-libéral qui avait si bien réussi à l'Allemagne. Je vous rappelle, puisque nous l'avions étudié il y a 2 ou 3 ans, le modèle ordo-libéral, qu'à la différence du néolibéralisme de facture anglo-américaine, l'ordo-libéralisme ne prend pas le marché pour un donné, mais pour une construction institutionnelle dont la solidité exige de l'État de fortes disciplines budgétaires et monétaires et dont la clé de voûte est le système européen des banques centrales qui a été conçu sur le modèle de ce qu'était la banque centrale allemande. Ce système européen des banques centrales est placé sous l'autorité de la Banque centrale européenne, la BCE, et ce système a été rendu entièrement indépendant des gouvernements par le traité de Maastricht. C'était l'article 108 du traité qui est devenu l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et au terme de cet article, ni la banque, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements, des États membres. Donc nous avons ici une autre instance, de même que la Cour de justice qui échappe à tout contrôle politique, la banque également, et cela était conforme à la manière allemande de voir les choses, et c'est vraiment au cœur même du modèle allemand, cette indépendance, et la place symbolique de la monnaie dans la construction allemande après la Seconde Guerre mondiale ne doit pas être méconnue, parce que l'État est devenu un objet irreprésentable. Et la monnaie est le symbole même de l'identité nationale pour les Allemands. C'est ce qui a été le coup de génie de M. Kohl quand il a dit « un Deutschmark de l'Est » ou « un Deutschmark de l'Ouest ». C'était une façon de dire nous sommes dans le même cadre institutionnel. Mais c'est un modèle propre à l'Allemagne. Et il est lié à une histoire et à une culture qui sont différentes de celles de la France, de l'Italie ou de la Grèce. Et le choix stratégique consistant à étendre à l'ensemble de la zone un modèle qui était inscrit dans une histoire particulière a conduit à la création de ce système européen de banque centrale, et qui est non seulement est politiquement irresponsable, c'est aussi le cas de la réserve fédérale américaine, mais contrairement à la réserve fédérale américaine, il n'a le droit de soutenir directement... il n'a pas le droit de soutenir directement les finances publiques, et il n'a pas non plus le devoir de soutenir l'emploi. C'est une grande différence avec les statuts de la réserve fédérale américaine qui, elle, doit veiller également à lutter contre l'inflation et contre le chômage, et qui peut éventuellement faire ce qu'on appelle quantitative easing, c'est-à-dire en fait faire marcher la planche à billets pour alléger la dette publique. En principe, tout cela est exclu dans le cas de la Banque Centrale Européenne. Vous avez ici les dispositions respectives de l'article 127 du TFUE et de la section 2A de la loi sur la Banque Centrale Américaine. Et vous voyez que dans le cas de la Réserve Fédérale Américaine, la promotion de l'emploi est même le premier objectif qui lui est assigné. Donc, nous avons une monnaie qui a été construite sur un choix ordo-libéral et plus exactement d'extension d'un modèle national à un ensemble très hétérogène de pays. Ça devait, pensait-on, conduire à une convergence, tout le monde devenant allemand en quelque sorte, et l'un des problèmes que l'on constate, c'est que ça a conduit au contraire à un effet d'aggravation des divergences. Pour assurer la convergence, on a asservi les États à la réalisation d'objectifs d'équilibre budgétaire et financier, tout en les privant de l'essentiel des instruments de politique publique qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Ils ne peuvent plus user, par exemple, le gouvernement français, ni des barrières tarifaires, ni du déficit budgétaire, ni de la création monétaire et de l'inflation, et de moins en moins de la fiscalité, parce que les États sont mis en concurrence fiscale, comme je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qui leur reste ? Ils se sont privés de tous les instruments de politique économique, donc il ne leur reste plus qu'un seul, c'est le droit du travail, c'est-à-dire le marché. Donc on s'agrippe au seul levier qui reste, c'est celui de la déréglementation du droit du travail, en disant nous allons faire par une dévaluation des coûts du travail, nous allons maintenir la compétitivité de notre pays. Ça reste c'est le seul instrument et c'est ce qui explique la polarisation non seulement de ces États, mais aussi des instances qui les contrôlent désormais, que ce soit la Commission ou la Banque centrale, qui les pressent de procéder à ce qui est appelé maintenant rituellement les nécessaires réformes structurelles. Si vous voulez en voir le dernier exemple des consignes qui sont données à cet effet, vous pouvez lire les recommandations de la Commission européenne concernant le programme national de réforme de la France, qui ont été publiées le 13 mai 2015, ou bien les plus récentes déclarations de M. Draghi, le responsable de la Banque Centrale Européenne, qui s'intitule « Réformes structurelles, inflation et politique monétaire ». Et elles vont tous dans le même sens, c'est celle d'une réduction du coût du travail, d'une lutte contre les rigidités du marché du travail. Et ce message est relayé quotidiennement parce que le philosophe américain Christopher Lash appelait joliment les « talking classes », ce qu'on pourrait traduire par la classe jacassante, celle qu'on entend chaque jour dans sa salle de bain et qui, le matin, et qui appelle donc à ces réformes courageuses. Et c'est un mot d'ordre qui est rabâché depuis 40 ans et le plus souvent, on ne peut pas s'empêcher de le remarquer, par des personnes qui dénoncent les avantages extravagants dont jouiraient les insiders et les opposent ainsi les chômeurs aux smicards, les précaires aux titulaires d'un emploi stable, les salariés aux fonctionnaires, les actifs aux retraités, les immigrés aux indigènes et ainsi de suite. Alors que souvent, ces discours sont tenus par des gens qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler les insiders, ceux qui sont au centre du dispositif. Donc, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et comme ça ne marche pas, on pourrait penser qu'on fait un peu un retour sur l'expérience des conséquences de l'euro. D'ailleurs, je crois que la Commission commence à y être sensible, non pas du tout sur les points de vue social, mais elle commence à s'effrayer de ces effets de divergence économique avec une concentration des richesses dans certaines zones de l'Europe et puis un appauvrissement de toute une autre partie. Mais cela dit, ce qu'on a plutôt fait depuis la création de l'euro, c'est devant ce constat d'échec, c'est de dire c'est qu'on n'y est pas allé assez fort. Donc on a renforcé les disciplines, que ce soit en 1997 par l'adoption du pacte de stabilité et de croissance ou en 2012 par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire dont nous avions parlé il y a 2 ans, dont j'avais évoqué parce que c'est tout à fait l'imaginaire de la gouvernance par les nombres, la mise en place de mécanismes de correction automatique qui sont censés rééquilibrer les budgets et assurer le maintien des dépenses publiques sur les trajectoires assignées par les autorités de tutelle. Cette autorité de tutelle a pris le visage, pour les pays en difficulté financière, de la Troïka, qui est qui réunit donc la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, et qui dicte aux États en difficulté financière des politiques qui sont pratiquement toutes des politiques essentiellement de démantèlement de l'État social, qu'il s'agisse de privatisation ou de paupérisation des services publics, de réduction des assurances sociales ou de déréglementation des marchés du travail. C'est tout à fait frappant d'un point de vue juridique parce que ce sont des domaines qui échappent en principe aux compétences de l'Union européenne. Nous l'avons vu, le traité de Rome avait dit les questions sociales, c'est l'affaire des États. Or, par le biais de l'euro, on a des instances non élues qui dictent des politiques. Vous allez voir jusqu'à quel point de détail, je vais vous en donner un exemple dans le cas paradigmatique de la Grèce. Et ce sont des politiques qui conduisent ces États à violer les normes sociales européennes ou internationales qu'ils ont ratifiées, au point que le Parlement lui-même s'en est inquiété. D'ailleurs, il y a un rapport du Parlement européen sur la Troïka qui est une résolution du Parlement sur la Troïka du 13 mars 2014, qui est facile à retrouver sur le net, où il y a une sorte de radiographie de ce qu'a été l'action de la Troïka, qui est assez préoccupée, qui témoigne de la préoccupation du Parlement européen face à cette politique de démantèlement des règles sociales de base. Ces violations, donc, encouragées par la Troïka des droits sociaux fondamentaux, ont été dénoncées par l'autre Europe, celle du Conseil de l'Europe que nous avons évoquée précédemment, et notamment par le Comité européen des droits sociaux, qui est le gardien de la charte sociale du Conseil de l'Europe que nous avions examinée, je pense, avant les vacances de Noël. Et compte tenu de la place des droits sociaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne et des procédures d'élaboration du droit dérivé à leur égard, ce comité estime qu'on ne peut présumer la conformité du droit de l'Union européenne aux exigences de la charte sociale européenne. Donc je vous rappelle, la charte sociale européenne, c'est l'instrument social du Conseil de l'Europe, donc entité distincte de l'Union européenne. Que dit le comité ? Le fait de faciliter la circulation des services par-delà les frontières et de promouvoir la faculté pour un employeur ou une entreprise de fournir des services sur le territoire d'autres États sont importants et précieux, mais ça ne peut être traité comme ayant a priori une valeur plus grande que les droits essentiels des travailleurs. C'est une critique directe des modes de raisonnement de la Cour de justice de l'Union que je viens d'évoquer et que résumait Pierre Rodière en disant on part du principe la liberté économique et puis on traite les droits sociaux comme une dérogation éventuelle au jeu des libertés économiques. Ce que dit ici le comité, c'est on ne peut pas établir cette hiérarchie entre liberté économique et droits sociaux. Et selon le comité, la charte sociale européenne et la législation de l'Union sont deux systèmes juridiques différents et le respect de la charte exclut d'accorder aux libertés économiques donc une valeur plus grande qu'aux droits essentiels des travailleurs. C'est une condamnation implicite de la jurisprudence de la Cour de justice. Et cette condamnation implicite témoigne de... c'est un témoignage de plus de la guerre des juges parce que ce Comité européen des droits sociaux a une fonction quasi-juridictionnel au regard du Conseil de l'Europe. Et de plus, ce comité a condamné un certain nombre de dispositions qui avaient été adoptées par la Grèce pour satisfaire les demandes de la Troïka et qu'il a jugé contraire aux droits sociaux fondamentaux garantis par la Charte sociale. Bon, il l'a fait dans une série de décisions que nous aurions pu examiner plus à loisir si nous avions eu le temps, mais je passe là-dessus. Ces politiques imposées par la Troïka ont entraîné une hausse vertigineuse du chômage, à commencer par celui des jeunes, puisque, par exemple, actuellement, le taux de chômage des jeunes a atteint 48,8% en Espagne, qui est un chiffre inimaginable. Ça veut dire que c'est des pans entiers de nouvelles générations qui sont, auxquelles on dénie l'expérience du travail. Ça a entraîné aussi une paupérisation de pan entier de la population, ainsi qu'une dégradation considérable des services d'éducation et de santé. Et vous voyez ce que veut dire ici schizophrénie d'un ordre juridique international. D'un côté, on a des normes sociales qui imposent le respect d'un certain nombre de standards de droits économiques et sociaux, et de l'autre, on a des dispositions qui pousse les gouvernements à violer ces dispositions. Et cette schizophrénie, elle est particulièrement visible dans une décision tout à fait récente de la Cour de justice qui concerne les temps de travail du personnel hospitalier en Grèce. Il faut savoir que pour satisfaire les exigences de la Troïka, la Grèce a réduit ses dépenses de santé d'environ 35% depuis 2010. Elle a supprimé 15 000 postes et 10 000 lits dans les hôpitaux publics, dont la fréquentation dans le même temps a augmenté de 25% parce que les gens n'ayant plus les moyens d'aller consulter des médecins se présentent à l'hôpital. D'où un allongement démesuré du temps de travail des praticiens hospitaliers qui ont échappé au licenciement et dont la durée de travail oscille entre 60 heures et 93 heures par semaine et peut même atteindre 32 heures d'affilée. Alors, ces horaires extravagants dépassent les maxima autorisés par la directive européenne sur le temps de travail. Et la Cour de justice vient donc de condamner la Grèce à la demande de la Commission, qui est membre de la Troïka, qui a donné pour consigne de réduire drastiquement les dépenses dans le domaine hospitalier. Elle l'a fait dans un arrêt de la Cour de justice du 23 décembre 2015, c'est tout récent, dans l'affaire C-194. C'est un arrêt qui n'a pas encore été commenté dans les revues spécialisées, et ne parlons pas évidemment des médias en général. Alors, dans ce climat tout à fait schizophrénique, en effet, on comprend la popularité récente de cette citation de Bossuet, que je pense un des premiers, c'est Michel Schneider dans ce Big Mother, j'avais cité, mais mal. La citation exacte est celle-ci. « Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je quand on l'approuve et qu'on y souscrit, quoi que ce soit avec répugnance ?» Je ne suis même pas sûr qu'il y ait de la répugnance dans le cas qui nous occupe. Donc là, on a un deuxième facteur donc, de désintégration de l'Europe sociale qui est les disciplines engendrées par les choix qui était à la base de la fabrication de l'euro, et ça supposerait de revenir sur la construction de l'euro, de la repenser, de faire un retour sur expérience. Or, on ne voit pas que ça soit actuellement politiquement possible, hormis une crise. C'est-à-dire, cette possibilité s'avérera, surviendra s'il y a une crise systémique du système monétaire, ce qui malheureusement ne peut pas être exclu d'après les experts. Puisque les solutions envisagées en Grèce ne semblent vraiment ne convaincre absolument personne, même pas ceux qui les ont imposées. Le troisième facteur de délabrement de l'Europe sociale, c'est ce qu'on pourrait appeler la finance souveraine, et plus précisément par l'implosion des marchés financiers qui est survenue en 2008. Je ne vous rappelle pas le contexte de cette crise, ni son versant juridique, qui est particulièrement intéressant parce que c'est sur la déréglementation de techniques de cession de créances. La source première serait intéressante, mais là encore, je n'ai pas le temps. Cette crise de 2008 avait été annoncée par un certain nombre d'économistes auxquels nul n'a jamais songé à remettre le prix dit Nobel d'économie. Notamment en France, il y a au moins trois auteurs qui, dans des ouvrages aisément accessibles, que ce soit Jean-Luc Gréau, François Morin ou Paul Jorion, avaient, avant 2008, annoncé qu'il y avait la constitution d'une bulle gigantesque et qu'il pouvait y avoir qu'une catastrophe monétaire. Cette catastrophe aurait dû inciter les États à mettre sous tutelle les banques, ce qu'on appelle les banques systémiques, c'est-à-dire « too big to fail », c'est-à-dire les banques dont on ne peut pas envisager un défaut sans avoir une catastrophe générale à l'échelle de la planète. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'on les coupe en morceaux pour éviter qu'il y ait des espèces de monstres financiers qui fassent courir ce genre de risque à l'économie mondiale. La possibilité en a été ouverte pendant une courte période, mais en fait, c'est le contraire qui s'est produit. La crise a permis à ces banques et aux marchés financiers de renforcer leur tutelle sur les États qui les avaient renfloués. Autrement dit, elle a permis aux banques systémiques, à l'origine de la crise, d'affirmer leur puissance souveraine sur les gouvernements élus. Et ce retournement spectaculaire s'est traduit en Europe par l'installation à divers postes de commande d'anciens cadres dirigeants de Goldman Sachs, qui est la banque qui avait aidé la Grèce à trafiquer ses comptes pour entrer dans la zone euro. Ça a été le cas, vous vous souvenez, de monsieur Monti en Italie et de monsieur Papademos, qui était un ancien cadre de Goldman Sachs, qui est devenu Premier ministre de la Grèce. Et ça a été le cas le plus fameux, c'est évidemment celui de monsieur Draghi, qui, après avoir présidé aux activités de Goldman Sachs en Europe, a été nommé à la tête de la Banque centrale européenne. Et aussitôt en fonction, il a déclaré que le modèle social européen était révolu et que le devoir des États membres était désormais de rendre les marchés du travail encore plus flexibles. Bon, il y a ici un jeu de bonneteau tout à fait impressionnant qui a consisté à faire oublier que la crise était due à la déréglementation des marchés financiers pour l'imputer à l'excès de réglementation des marchés du travail. C'est quand même, j'allais dire, salut l'artiste, enfin, il fallait le faire. Et aux protections extravagantes dont jouiraient les travailleurs et les chômeurs en Europe. Et ça explique pourquoi le droit du travail aujourd'hui n'est plus guère envisagé qu'en termes de rigidité, de complexité nuisible à l'emploi, et non plus en termes de projet politique porteur de plus de justice sociale dans le monde du XXIe siècle. Il y a un retournement complet de la perception du droit du travail, et je dirais même sans doute aussi de la perception, bien que soit un moins fort degré, de la sécurité sociale, où là on joue insider-outsider en disant au fond, ceux qui bénéficient des prestations sociales, c'est plutôt les étrangers, etc. Donc il y a une conversion, par exemple c'est net en Angleterre, d'une partie des classes populaires au fait que un état social généreux profite à d'autres, à des profiteurs justement, et que ce n'est pas à leur avantage à eux. Alors tout ce contexte, c'est celui de ce que M. Cameron, dans une formule je trouve particulièrement bien frappée, a nommé, et que j'ai déjà dû citer, je vous ai déjà parlé de ça, du global race. Oui, vous vous souvenez. Donc il a dit nous sommes tous engagés dans une écoutons la parole de M. Cameron. La vérité est que nous sommes aujourd'hui engagés dans une course globale, et pour des pays comme le nôtre, cela sonne l'heure des comptes, couler ou nager, agir ou décliner. Ce sont des temps difficiles, nous sommes testés, comment en sortir gagnant, c'est pas compliqué, travailler dur. Bon. Si vous rapprochez ce type de discours de celui que nous avions étudié l'année dernière de Roosevelt sur les quatre libertés, qui n'étaient pas les mêmes libertés que les libertés européennes, ou sur le Second Bill of Rights, vous voyez la différence entre ce qui est un projet politique qui met à un horizon de plus de justice sociale, ce qui avait été la démarche de Roosevelt, et ici nous sommes plutôt dans quelque chose qui relève d'une sorte de darwinisme social à l'échelle internationale. C'est une lutte à mort, à la fois entre les individus, entre les nations, et donc c'est la lutte de tous contre tous, et il faut s'armer pour gagner ce combat. C'est le vêtement neuf de ce que Junger appelait la mobilisation totale, où il avait vu le principal legs de la Première Guerre mondiale à l'organisation des sociétés en temps de paix, les différences que l'engagement de toutes les ressources humaines dans la guerre de la compétitivité ne sert pas à un État total, mais à un marché total qui s'étend à tous les aspects de la vie dans tous les pays du monde. Alors, en Europe, cette emprise s'est traduite par une remise en cause du principe de démocratie. Et elle a été frontale dans le cas de la Grèce, qui a été sommée de faire allégeance à l'Eurogroupe durant l'année 2015. Bon, je ne vous rappelle pas, je présume connu les péripéties politiques grecques, donc ils ne votent pas comme on aurait voulu qu'ils votent en janvier, et qui viennent à récipiscence le 12 juillet dans un accord, enfin, ce n'est pas un accord, une déclaration préalable à tout accord que le gouvernement grec a avalisé le 12 juillet 2015. Alors, ce document est très intéressant à étudier parce que c'est un exemple particulièrement caractéristique de ce que j'ai appelé les années précédentes les liens d'allégeance comme nouvelle forme de structure des rapports, et on le voit fonctionner ici au niveau des rapports internationaux. Dans cet accord, la Grèce fait un acte de repentance sur ses choix électoraux de janvier 2015 et confesse que, je cite, « les sérieux doutes qui planent sur le caractère soutenable de la dette grecque sont entièrement imputables au relâchement politique des 12 derniers mois. » Il faut le faire, si j'ose dire. Hein. C'est une confession surréaliste. Quand on connaît l'histoire de la dette grecque et la responsabilité de ceux qui ont concouru ou fermé les yeux sur le maquillage des comptes publics ayant permis l'entrée de la Grèce dans la zone euro, qu'il s'agisse des gouvernements grecs précédents, de la Commission européenne ou de Goldman Sachs qui a été à la manœuvre du point de vue technique, de faire porter l'entière responsabilité. Alors, et il faut qu'il le signe avant dans un acte. Vous voyez, c'est une déclaration, ce n'est pas un contrat. C'est-à-dire les autres membres de la zone euro ont dit au gouvernement grec, il faut d'abord que vous demandiez pardon. Et si vous demandez pardon, que vous confessez vos fautes, alors on pourra négocier. Et ça devrait vous rappeler ce que nous avions étudié à propos des deals de justice, que, par exemple, l'administration américaine impose aux grandes entreprises multinationales qui avaient commercé avec Cuba, c'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi dans les années, où là aussi, il faut commencer par un acte unilatéral où l'entreprise reconnaît ses fautes, comme a fait BNP Paribas, par exemple, dans le règlement financier de l'année d'il y a deux ans. C'est la même structure, qui est une structure d'allégeance. Et donc, la Grèce reconnaît ses fautes, et dans cette même déclaration, elle souscrit par avance aux politiques imposées par ses créanciers dans des domaines, je le rappelle, qui échappent totalement aux compétences de l'Union européenne, tels que la privation du secteur de l'énergie, le droit du licenciement, le régime des conventions collectives, ou bien, alors ça c'est un véritable mantra des réformes structurelles, l'ouverture des magasins le dimanche, qui va évidemment sortir la Grèce du mauvais pas où elle s'est mise. Donc, et même des boulangeries, enfin, vous avez le lait et les boulangeries le dimanche, voilà, ce régime est imposé dans cette, par avance, elle accepte de prendre ces réformes. Dans d'autres pays, alors il n'y a pas eu beaucoup de résistance juridique en Grèce. Le Conseil d'État grec a bloqué un des projets de privatisation, mais il n'a pas été en état. Dans d'autres pays, en revanche, les cours constitutionnelles ont résisté à la brutalité avec laquelle est menée cette politique de destruction de l'État social. Je n'ai pas le temps, j'aurais dû en avoir, de rentrer dans une analyse de détail de ces jurisprudences qui, là, n'ont pas beaucoup attiré non plus l'attention des médias. Les plus allants, si je puis dire, en ce sens, étaient les Portugais, puisque le tribunal constitutionnel portugais a invalidé à plusieurs reprises des mesures d'austérité prises par le gouvernement en application des directives de la Troïka, et notamment au nom des principes d'égalité, de proportionnalité et de sécurité juridique, il a condamné le ciblage des mesures d'austérité sur les travailleurs du secteur public. La Cour constitutionnelle italienne a pareillement appliqué le principe d'égalité de traitement pour censurer des mesures de blocage de la revalorisation des pensions de retraite, et elle s'est référée à l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour censurer l'interdiction de la négociation collective dans le secteur public. Vous voyez là encore, guerre des juges. Nous avons des résistances qui viennent de la part des cours constitutionnelles contre des mesures prises au niveau des organes de l'Union dont ils estiment qu'elles bafouent un certain nombre de droits, y compris de droits contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui a la même valeur aujourd'hui que les traités. Mais cette remise en cause de la démocratie concerne pas seulement les pays du sud de l'Europe, mais en fait elle les concerne tous, ainsi que l'avait jugé avec beaucoup de lucidité le tribunal constitutionnel allemand, le Bundesverfassungsgericht, dans son importante décision relative à la ratification du traité de Lisbonne. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette décision, je n'y reviens pas, si ce n'est pour souligner que le juge constitutionnel allemand cible spécifiquement la Cour de justice de l'Union. Le message est clair, en disant que même après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la composition de la Cour de justice restera gouvernée par le principe « un État, un juge » sous l'influence déterminante des États, ce qui veut dire que l'Union en tant que système politique ne répond pas aux critères de la démocratie « un homme, une voix ». Donc c'est une critique assez direct, et plus généralement, l'Allemagne est sans doute le pays où la remise en cause par l'Union européenne de la démocratie et de l'État social a suscité le débat le plus riche et le mieux argumenté. Ça peut paraître paradoxal, si on pense au contexte, par exemple, de la crise grecque, mais c'est en Allemagne que vous trouverez les analyses les plus vivantes. Et alors peut-être par le fait qu'ils ne sont pas, eux, dans une position de soumission, donc ils continuent à réfléchir. Donc j'avais dû vous signaler déjà l'article de Dieter Grimm, qui est un ancien membre justement du Bundesverfassungsgericht et qui a été l'artisan intellectuel en réalité de cette décision au traité de Lisbonne de 2010. Et je vous ai recommandé le gros article qu'il vient de publier dans la revue Le Débat de décembre dernier, et également le livre de Wolfgang Streck, du temps acheté, qui a donné lieu en 2012-2013 à un intense débat en Allemagne entre Streeck et Habermas sur le thème « Est-ce que l'Union européenne telle qu'elle est engagée est réformable ou pas ?» ou « Comment faut-il la réformer ?» Donc, il y a eu ce débat. L'un des problèmes, c'est que ces débats restent nationaux. Donc, le débat public, l'espace public, reste un espace public national. Et c'est d'ailleurs un des motifs qui conduit le Bundesverfassungsgericht à dire on n'a pas le substrat pour avoir une véritable démocratie européenne puisqu'il n'y a pas un espace public de discussion commune entre les différents pays européens. Le point culminant de cette guerre des juges en Europe a été atteint avec l'avis rendu le 18 décembre 2014 par la Cour de justice sur le projet d'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, je rappelle le décor, on a deux grands ensembles juridiques en Europe, Conseil de l'Europe, Union européenne, et le Conseil de l'Europe, c'est plutôt le gardien des droits de l'homme, et avec un outil, enfin un instrument particulièrement fort, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Les rédacteurs du traité de Lisbonne avaient convenu que l'Union allait adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté dans cet article 6 du traité, l'Union adhère à la Convention européenne. La Cour de justice de l'Union, Cour de Luxembourg, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour de Strasbourg, si vous voulez faire une situation géographique, avait fait savoir dès 1996 son hostilité à une telle adhésion, au motif à l'époque que cette dernière aurait excédé les compétences que la communauté tenait du traité. Et c'est la raison pour laquelle on a modifié le traité, pour donner compétence pour l'adhésion. Et donc, aujourd'hui, cet article 6 donnait une base et vous noterez l'emploi de l'indicatif qui, dans le vocabulaire juridique, vaut impératif. Donc le traité impose l'adhésion. En application de cette disposition, l'article 128 du traité fixe la procédure d'adoption de l'accord d'adhésion, dont un protocole, qui est le protocole numéro 8 du tribunal, du traité de l'Union, pas du traité de fonctionnement, mais du traité de l'Union, pose les conditions qui sont essentiellement au nombre de trois. Il faut préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union, garantir les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, et ne pas affecter l'article 344 du traité de fonctionnement. Au terme de l'article 344, les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci. Donc voilà le cadre juridique. L'article 6 dit qu'on adhère, mais on adhère, cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union. Et cette deuxième phrase est précisée donc dans les dispositions, notamment du protocole numéro 8. Sur ces bases, un accord d'adhésion a été négocié entre l'Union européenne, en fait c'est, techniquement c'est la Commission sur mandat du Conseil, avec le Conseil de l'Europe, on a négocié l'adhésion. Et l'accord d'adhésion, un projet a été rédigé qui a été soumis à l'avis juridique de la Cour de justice de l'Union européenne. Et cet avis est évidemment très important et il a donné lieu à d'abandon de nombreux commentaires des spécialistes. Mais il a, comme d'habitude, échappé à l'attention des médias, alors qu'il constitue en fait un événement majeur dans la construction européenne. L'avis est négatif. La Cour dit « pas question d'adhérer », en fait. Elle ne le dit pas aussi brutalement, vous allez le voir, mais elle dit « ce n'est pas possible d'adhérer, en fait, dans les conditions de l'accord d'adhésion que vous avez négocié, ça modifierait les compétences, donc elle a donné un avis négatif et donc le système est bloqué. L'adhésion actuellement est bloquée. Alors le plus frappant, bien sûr, c'est que la Cour, qui est gardienne des traités, s'est ainsi autorisée à priver d'effet, sans doute définitivement, une disposition non équivoque du traité. Du point de vue herméneutique, qu'est-ce qu'a fait la Cour ? Elle a renversé la proposition principale et la subordonnée de l'article 6.2. Elle lit cet article comme s'il avait pour objet d'affirmer l'intangibilité de sa propre compétence, la compétence de la Cour, et de subordonner l'adhésion à cette intangibilité. Et quoi qu'on pense de l'opportunité de cette adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut que noter qu'en la privant de tout effet, la Cour s'arroge un pouvoir souverain transcendant celui des États membres. D'où la question posée dans ce développement, qui garde les gardiens ? Parce qu'ils sont gardiens des traités et ils les privent de tout effet. Alors, sur le fond, l'hostilité de principe de la Cour à l'adhésion ne fait aucun doute. Contrairement aux conclusions de son avocat général, elle ne ménage aucune porte de sortie pour une renégociation de l'accord d'adhésion qui tiendrait compte de ses objections. En fait, cette adhésion obligerait inévitablement la Cour européenne à se soumettre, dans certains cas, aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour de Luxembourg devrait dans certains cas se soumettre aux décisions de la Cour de Strasbourg. Et c'est là qu'est le bobo, si vous me passez l'expression. Et la Cour n'en fait du reste pas mystère, et elle invoque l'article 344 du traité de fonctionnement pour s'opposer, je cite, à tout contrôle externe, antérieur ou postérieur. Cette formule est très érotique. Alors, donc tout contrôle externe, antérieur et postérieur, est exclu dans la solution des litiges impliquant l'Union européenne ou les États membres. Ça va loin, cette formule, y compris parce qu'on pourrait imaginer aussi l'intervention d'autres instances gardiennes, par exemple des droits, des normes internationales du travail. Non, la Cour dit « j'ai un monopole absolu, je suis souveraine pour tout ce qui concerne l'interprétation des droits fondamentaux à l'intérieur de l'Union européenne. Évidemment, les négociateurs de l'accord d'adhésion savaient que la Cour de Luxembourg était hostile, et pour ménager le caractère subsidiaire de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet d'accord prévoyait de lier cette dernière à l'interprétation des points de droit déjà tranchés par la Cour de Luxembourg. On va dire Luxembourg et Strasbourg, pour que ce soit plus clair hein, que dans la guerre en question. Donc, les négociateurs s'étaient dit, bon, ils sont très sensibles, les gens de Luxembourg, là, dans leur paradis fiscal, c'est la juridiction souveraine. Donc, on va dire, la Cour de Strasbourg n'aura pas le droit de revenir sur des points qui ont déjà été tranchés à Luxembourg. Mais cette garantie n'a pas trouvé grâce aux yeux de la Cour de justice, qui estime qu'elle seule doit décider de ce qu'elle a ou non déjà tranché. Elle dit que le fait que les États membres ou l'Union ont la possibilité d'introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme va à l'encontre de la nature même du droit de l'Union, qui exige que les relations entre les États membres... Ah oui, non, c'est pas cette disposition-là. Excusez-moi, c'est le premier, c'est le 210. Sur contrôle interne, je vais trop vite. Voilà. C'est le point... Oui, j'ai mis plusieurs textes les uns au bout des autres, alors c'est pour ça que je m'y perds. La nécessité d'impliquer préalablement la Cour répond à l'exigence de préserver les compétences de l'Union et les attributions de ses institutions, notamment de la Cour, comme il est exigé de l'article 2 du protocole. À cette fin, il est nécessaire que la question de savoir, c'est ce paragraphe que je recherchais, la question de savoir si la Cour s'est déjà prononcée sur la même question de droit ne soit résolue que par l'institution compétente de l'Union dont la décision devrait lier la Cour. C'est-à-dire, je suis seul à même de décider de ce que j'ai déjà jugé. C'est ça, c'est le 238. Parce que si on permettait à la Cour de Strasbourg de le faire, ça reviendrait à lui attribuer une compétence pour interpréter ma jurisprudence à moi. Et ça, c'est intolérable. Donc là, on est au cœur d'une guerre du dernier mot sur l'interprétation des droits fondamentaux. Pour s'affirmer ainsi en Cour suprême, insusceptible de se plier à aucune autre juridiction, la Cour a donné de la construction européenne une définition nouvelle, particulièrement constructive, si je puis dire. Vous vous rappelez que les juges nationaux, hormis peut-être en France la Cour de cassation, dont l'allégeance à la Cour de justice de l'Union semble inconditionnelle, voient dans le droit européen un ordre juridique original qui s'impose aux législateurs, mais ne peut porter atteinte à l'identité constitutionnelle des États membres. C'est le point qu'on a examiné dans les cours précédents. Et ce sont les États membres, les États qui demeurent les maîtres des traités. Vous vous rappelez aussi que la Cour de justice n'a eu au contraire de cesse d'affirmer la primauté absolue du droit européen et donc la sienne. Et la question de l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme l'a contrainte à faire un pas de plus dans cette direction de l'affirmation de la primauté absolue du droit européen. Pour réduire à rien la première phrase de l'article 6 du traité, au nom de la seconde phrase, elle a donné des compétences de l'Union, vous voyez, la deuxième phrase, c'est les compétences de l'Union, une interprétation nouvelle. Alors, c'est un peu lent. Hop, excusez-moi, on y revient. L'Union, affirme-t-elle à bon droit, ne peut être considérée comme un État. Mais cependant, elle est dotée d'un ordre juridique d'un genre nouveau, ayant, je cite, une nature qui lui est spécifique, un cadre constitutionnel et des principes. Donc, on dit, l'Union a un cadre constitutionnel. Elle a une constitution. Donc, c'est pas un État, mais elle a une constitution. Or, l'idée même de traité constitutionnel a été abandonnée avec le traité de 2005. Le traité de Lisbonne ne se présente pas comme une constitution. Et vous retrouvez cette formule à l'article 163 où la Cour affirme que les traités constituent une charte constitutionnelle de base de l'Union. Donc, fondée sur un ensemble de valeurs communes, cette construction impliquerait un principe que la Cour découvre pour les besoins de la cause, qui est celui de la confiance mutuelle entre les États membres. Bon, là, le passage est un peu long, mais en vertu de ce principe, chaque État doit présumer le respect des droits fondamentaux chez les autres. Il ne peut donc, je cite, « exiger d'un autre État membre un niveau de protection nationale des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l'Union ». Paragraphe 192. Car d'une façon générale, je cite, « l'autonomie dont jouit le droit de l'Union par rapport aux droits des États membres, ainsi que par rapport au droit international, impose que l'interprétation de ces droits fondamentaux soit assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de l'Union », c'est le paragraphe 170. Ça, c'est un énoncé extrêmement important. Là, il dit « j'ai le monopole de l'interprétation des droits fondamentaux et ces droits fondamentaux doivent être interprétés à la lumière des objectifs de l'Union, c'est-à-dire des libertés économiques ». Et vous avez là une généralisation, au fond, de la jurisprudence Viking-Laval, qui traite les minima de protection sociale comme des maxima et les subordonne aux libertés économiques. Mais en vertu de cette confiance mutuelle, la Cour va même plus loin. Un État ne peut pas non plus vérifier, autrement dit, mettre en cause le respect de ses droits par un autre État membre. Or, c'est une telle vérification qu'autoriserait, par exemple, l'adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme, qui ouvrirait à un État le droit d'alléguer devant la Cour de Strasbourg la violation d'un droit fondamental dans un autre État. Bon, l'avis est assez complexe, je n'ai pas le temps d'aller plus dans le détail, mais ce que dépeint cet avis, c'est une Union européenne qui serait quasi fédérale et dont la Cour de justice de l'Union serait la Cour suprême, qui, à l'instar de son homologue américaine, aurait le dernier mot sur l'interprétation des droits fondamentaux, qui devrait se concilier avec les objectifs économiques de l'Union. Et comme son homologue américaine, la Cour n'admettrait qu'avec la plus extrême répugnance la moindre ingérence d'une juridiction internationale ou régionale sur le droit de l'Union. Si cette doctrine devait prévaloir, il serait par exemple interdit à un État membre de mettre en cause la violation par un autre État des normes internationales du travail devant une instance internationale, parce que ça serait contraire au principe de confiance mutuelle. En tant que Cour suprême de l'Union, la Cour de justice aurait le dernier mot, notamment sur l'interprétation qu'il convient de retenir des droits économiques et sociaux, et elle serait la seule à pouvoir le faire. Alors cette vision paraît, là je donne un jugement de valeur après avoir dit ce qu'il y avait dans l'avis, elle paraît assez déconnectée, c'est le moins qu'on puisse dire, de la crise profonde de légitimité qui mine aujourd'hui le projet européen et dont l'une des causes premières, identifiée par le juge constitutionnel allemand, est le déficit démocratique de l'Union. Voilà, faute de temps, je m'arrête là sur cet avis, mais j'espère vous avoir convaincu que, en effet, nous étions en Europe aujourd'hui dans le temps de ce que mon collègue Thomas Remer, qui travaille beaucoup sur la Bible, m'a promis une conversation sur le livre des juges dans la Bible, mais on est dans une période où ce sont les juges qui sont la source importante, active, dynamique de construction du droit et qui se livrent actuellement à des conflits de grande ampleur qui échappent pour l'essentiel à l'attention du public. Alors, dans le temps qui me reste, j'en viens à quelques conclusions sur la justice sociale internationale. La justice sociale internationale, nous l'avons vue l'année dernière, telle qu'elle a été réaffirmée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est ni l'idéal d'une justice transcendante qui serait imposée d'en haut par un dictateur supposé bienveillant, ni celui d'une justice immanente, surgissant spontanément du libre jeu de lois présupposées scientifiques, que ce soit celle de la race, de l'histoire ou du marché. La justice sociale évite ces deux écueils, car elle combine une dimension axiologique et une dimension procédurale. Sa dimension axiologique est celle de la dignité humaine et des droits économiques, sociaux et culturels qui en découlent, et sa dimension procédurale procède à la fois de la libre entreprise et de la liberté syndicale, dont la tension, réglée par le droit de grève et de la négociation collective, permet de convertir les rapports de force en rapports de droit. Bon, c'est ça l'idée qui animait et l'originalité du projet de justice sociale tel que défini notamment dans la déclaration de Philadelphie. Et à la fin de la guerre, on entendait subordonner à cet objectif l'ensemble des politiques économiques, monétaires, à l'échelle nationale et internationale. Et à cette fin, avait été négociée une charte qui s'appelait la charte de la Havane, qui a été adoptée en 1948, mais qui n'a jamais été ratifiée, et qui prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce dont l'une des missions aurait été la réalisation des objectifs de plein emploi et le relèvement du niveau de vie fixé par la Charte des Nations Unies. Et les statuts de cette organisation lui enjoignaient notamment de lutter contre les excédents aussi bien que contre les déficits des balances des paiements, de favoriser la coopération économique et non pas la concurrence entre les États, de promouvoir le respect des normes internationales du travail, de contrôler les mouvements de capitaux, d'œuvrer à la stabilité des cours des produits de base. Donc, en bref, le rôle qu'on voulait attribuer à cette organisation internationale du commerce aurait été à peu près l'inverse de celui qu'on a assigné à l'Organisation mondiale du commerce lorsqu'elle a été créée en 1994. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, l'échec du projet d'organisation internationale du commerce, l'échec de la charte de la Havane, a conduit à ce que l'État social ne se développe qu'au plan national et pas au plan international. Au plan international, la demande ou l'idéal qui avait été posé à la fin de la guerre d'une solidarité économique entre les États s'est brisé sur l'opposition globalement des pays du Nord, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, qui étaient les plus riches. Et le champ du cygne de cette demande des pays du Sud à concevoir un ordre du commerce international fondé sur la solidarité avec des objectifs de justice sociale au niveau international, ce champ du cygne, ça a été en 1974 l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une charte des droits et devoirs économiques des États, qui était le dernier texte international qui continuait sur cette lancée, cette aspiration de la fin de la guerre. Mais faute d'accord des pays riches sur l'ensemble de cette disposition, cette charte n'a jamais eu de force juridique obligatoire. Et c'est durant la même décennie, des années 70, que l'abandon des parités fixes au profit des monnaies flottantes et l'arrivée au pouvoir de M. Reagan et Mme Thatcher a marqué le début d'une période différente qui s'est accélérée avec ensuite la fusion du communisme et du capitalisme en Chine. Donc ça a ouvert une nouvelle ère qui est encore la nôtre. Ça a signifié pour les pays du Sud qu'ils ont pris acte du refus des pays riches de s'accorder sur un ordre international juste, fondé sur la solidarité avec les pays pauvres. Et dès lors, ils se sont engagés dans la voie qui a été ouverte par la création de l'OMC en 1994, c'est-à-dire celle d'une compétition globale où chacun doit, conformément aux thèses libérales de David Ricardo, cultiver son avantage comparatif. Et cet avantage comparatif pouvait résider dans des ressources naturelles ou dans une ressource humaine qu'ils étaient ainsi incités à surexploiter, les deux, les ressources naturelles et les ressources humaines, pour maintenir leur compétitivité à l'échelle internationale. Et donc la concurrence par le moins-disant social et le moins-disant environnemental est la voie qui a été suivie par les pays du Sud les plus peuplés, au premier rang desquels la Chine, avec les succès économiques et les désastres écologiques que l'on sait. Et ce type de concurrence sape évidemment les bases de l'État social dans les pays du Nord qui sont engagés ainsi, bon gré mal gré, dans le global race que nous avons évoqué tout à l'heure, donc une course mortelle dont la loi des reins est la baisse du coût du travail qui est devenue l'alpha et l'oméga des politiques économiques suivies par tous les pays, partis de gouvernement en Europe. Les pays du Sud qui étaient trop défaillants pour suivre la voie chinoise ou indienne, notamment de nombreux pays africains, ont été livrés sans défense dans ce contexte de compétition généralisée à la concurrence internationale, au pillage de leurs ressources naturelles et au plan d'ajustement structurel du FMI qui ont préfiguré les plans de la Troïka, parce que c'est à peu près la même farine juridique, si je puis dire. Et une partie significative de leurs ressources humaines, notamment de leur jeunesse, ne pouvant plus survivre dans son pays, cherche le salut dans une émigration de masse qui est aussi périlleuse pour elle que déstabilisatrice pour les pays d'immigration. Alors, est-ce qu'on doit considérer, au regard de cette mise en perspective historique et juridique de la justice sociale, est-ce qu'on doit considérer, comme nous y pressent depuis 30 ans les doctrines et les réformes néolibérales, que cette vieille dame centenaire était en fait un vampire liberticide, qu'il faut lui enfoncer un pieu dans le cœur et l'enterrer définitivement pour qu'advienne la seule justice qui vaille, qui serait la justice immanente aux forces du marché. Et à ce moment-là, l'avenir serait à une réduction drastique du périmètre de la justice sociale, à quelques droits fondamentaux, ce qu'en Europe, maintenant, on appelle le socle. C'est très... Donc l'horizon, ça serait un socle. Ne pas mourir de faim, si possible, et à la captation corrélative des segments potentiellement lucratifs de la sécurité sociale par le marché de l'assurance. Et donc la justice sociale devrait un peu subir le même sort que celui promis à l'État par l'anarcho-capitaliste de ramener l'État à une taille assez petite pour qu'on puisse le noyer dans une baignoire. Je vous avais rappelé cette formule. Cet appel à en finir avec le mirage de la justice sociale méconnaît en réalité le fait que sans elle, demain comme hier, il n'y aura pas de paix durable. Vous vous souvenez, c'est ce qui est en tête du préambule de la Constitution de l'OIT en 1919, répété à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'oubli de cette leçon de l'histoire est dès aujourd'hui l'une des causes de violences inédites qui font cortège à la décomposition des États les plus faibles. les tensions et les inégalités engendrées par la globalisation font certes surgir certaines solidarités dans l'action, comme on le voit, j'en ai donné un exemple à propos de l'action sur le brevetage des médicaments, qui a été un des cas où on a fait un peu reculer les règles pour assurer l'accès aux médicaments dans les pays pauvres. Mais ce que ça fait ressurgir surtout, ce sont, si vous voulez, le déni d'un effort de construction de solidarité à l'échelle mondiale. C'est ça que j'appelle mondialisation par opposition à globalisation. C'est-à-dire, mondialisation, c'est rendre le monde vivable pour tout le monde. Bon. Ce qui supposerait des dispositifs de justice du commerce international. Faute de faire ça, faute d'admettre qu'il y a des solidarités à construire à cette échelle, et c'est vrai aussi à l'échelle européenne, eh bien, ce qu'on voit ressurgir, ce sont des solidarités d'exclusion qui sont fondées sur des réidentifications religieuses, ethniques ou tribales et qui sont le terreau où prospère aujourd'hui le terrorisme. Je dis le terreau, pas la cause des phénomènes multifactoriels, évidemment très complexes, mais il y a des terreaux qui sont plus favorables à la violence que d'autres. Et donc, dans ce contexte, la justice sociale redevient une priorité politique, notamment dans les grands pays émergents, qui ne l'aperçoivent pas comme un obstacle au développement, mais de plus en plus comme l'une de ses conditions les plus urgentes. D'où des innovations très remarquables dans ces pays, dont nous aurons, j'espère, l'opportunité de parler l'année prochaine, si je n'ai pas encore tout à fait décidé, mais je pense évoquer l'année prochaine la question de la diversité des modèles sociaux, donc avec une place importante aux modèles sociaux des pays émergents. Donc, avant de vous libérer, parce que j'ai réussi à tenir, peut-être en parlant un peu vite, mais le temps, je voulais vous donner deux rendez-vous pour cette année. Le premier, c'est une conférence que donnera le professeur Mark Friedland de Oxford, qui est un des plus grand nom du droit du travail en Grande-Bretagne, et qui viendra nous faire une conférence en français sur le thème du contrat de travail et les paradoxes de la précarité. En fait, il viendra nous parler de l'expérience de la flexibilisation du marché du travail dans le cas britannique, et notamment il nous parlera du contrat zéro heure, dont j'ai peut-être eu l'occasion de vous parler, c'est-à-dire vous êtes engagé à être disponible sans qu'on vous garantisse aucune heure de travail en contrepartie, ce qui est de la flexibilité maximale. Et donc cette conférence aura lieu le 9 mars à 17h. Et puis ceux d'entre vous qui sont assez courageux seront également les bienvenus pour le séminaire. Je dis assez courageux parce que c'est un très beau programme. J'aurais pas conçu autrement si je ne le pensais pas. Mais dans le cadre du séminaire, on s'autorisera peut-être un tout petit peu plus de technicité, donc je vous préviens. Donc il aura lieu sous forme de 4 matinées au mois de mars, donc ce sera dans l'amphithéâtre Alvax, je crois, et l'affiche doit être dehors, donc vous pouvez prendre connaissance. Elle n'est pas affichée, l'affiche ? Si, si, elle y est. Donc vous pouvez noter les différentes dates et j'espère vous y retrouver nombreux. Et je vous remercie vraiment de votre attention, de votre fidélité. Ça m'est un encouragement dans le cheminement qui est le mien dans cette maison. Merci beaucoup, bonne fin de journée.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.